France, présente dans 14 pays et leader en assurance vie en Afrique subsaharienne francophone, vous propose Priorité Santé.
Priorité Santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. La fistule obstétricale touche 2 millions de femmes dans le monde, dont près de 600 000 en Afrique de l'Ouest. Cette calamité entraîne l'incontinence urinaire ou rectale, ou parfois les deux à la fois, suite à un accouchement par voie basse pratiqué sans assistance, à domicile ou dans des cases de santé éloignées. Les risques de fistules sont plus importants à l'issue de grossesses précoces. Et au Niger, 3 filles sur 4 sont mariées avant l'âge de 18 ans. Cette pathologie exclut les femmes de la communauté. Elles se retrouvent rejetées, répudiées par leur mari et reléguées en périphérie des villages. Alors, comment réinsérer ces femmes dans la société? Comment les informer sur la nature de leur pathologie très invalidante? Quelle prise en charge et quelle prévention dans un pays où l'accès aux soins et aux centres de santé reste très difficile? C'est un reportage à Niamey de Charlie Dupio à l'occasion du congrès des premières dames de la CDAO sur la fistule obstétricale, et c'était au mois d'octobre dernier.
Et je m'appelle Madina Amorou. Je me suis mariée à l'âge de 15 ans. J'ai eu ma première grossesse à l'âge de 16 ans. Quand j'ai eu ma première grossesse, je fais 3 jours en train de faire le travail à la maison. J'ai accouché à la maison. Quand je suis en train de faire le travail, c'est j'étais à genoux. Tu sais, au village, quand les femmes se mettent à travailler, ils se mettent à genoux. Je fais 3 jours. J'ai accouché un mort-né. Après ça, j'étais malade. Je fais les urines et les selles ensemble. On a appelé une vieille là, une vieille dame, la guérisseuse du village. Quand elle vient le matin, elle fait de l'eau chaude. Elle vient me nettoyer. Quand elle venait là, elle trouvait les matières et les urines là sur moi, sur la panne à chaque fois qu'elles viennent, et à chaque fois en tenant leur nez, parce que je me sentais mauvais. Bon, il y a les odeurs, toute ma case était envahie. Même si tu es de passage à côté de ma case, c'est les odeurs mais seulement que tu sens. C'est en ce temps-là que je suis là que tout n'allait pas bien. Mon corps me fait mal. Je ne peux rien faire. Les matières fécales venaient. Et en effet, les deux écoulements, ça a continué. En ce temps, je ne sais pas ce qui m'arrivait. Je ne sais pas ce que j'ai. J'étais là couchée. Je ne peux même pas me lever. Ça a continué jusqu'à 2 mois.
Et vous étiez dans le village de votre mari?
Oui. J'étais restée avec ma belle-mère. Quand j'étais malade là-bas au village, là où j'étais dans ma chambre, il n'y a personne qui rentre. J'étais seule avec, même si on m'a amené la nourriture, on me jette ça comme ça et oui, c'est tout. Personne ne va venir me voir. Je suis là dans une chambre là où il n'y a que des poules. C'est les poules qui rentrent et sortent. Je suis orphelin de mère et de père. Je n'ai personne, je n'ai pas de sœur. Où on est, même père, même mère. Je n'ai pas de frère, j'étais seule là-bas. Ils ont dit que je suis gâtée maintenant. Je ne peux plus retenir les urines. Je ne peux plus retenir les matières fécales. Mais après, personne n'est venu jusqu'à ce que ma tante venait me prendre pour m'amener à Niamey. C'est après ça qu'on m'a fait transférer à l'hôpital La Mort de Chiachi. J'ai suivi 11 interventions. Maintenant, ça va. Il n'y a plus des urines, ça ne coule pas. Depuis que je suis tombée malade, on est parti me chercher là-bas au village et me ramener ici en ville, à Niamey. Mon mari n'est jamais venu me voir. J'ai fait 3 à 4 ans de la souffrance. Même les frères ou les sœurs de mon mari n'est jamais venu me voir. Je fais tout ça là, moi. Même ma famille, même il y a les gens de ma famille là, personne n'est venu me voir. À l'hôpital ou bien pendant mes interventions, j'étais seule. Maintenant, il n'y a aucun lien avec.
Bonjour Charlie Dupiot.
Bonjour.
C'est à Niamey que vous avez rencontré Madina, cette jeune femme aujourd'hui âgée de 37 ans qui a vécu plus de 20 ans avec une fistule.
Elle a souffert d'une fistule recto-vaginale, le cas le plus rare. Dans plus de 70% des cas de fistule au Niger, il s'agit de fistules vésico-vaginales entre la vessie et le vagin. Vous l'entendrez plus tard, la vie de Madina a finalement pris une tournure plus heureuse. Elle est aujourd'hui infirmière. Mais à 16 ans, ce drame s'est abattu sur elle. Et Madina a eu envie plusieurs fois de se donner la mort en se noyant dans un puits ou au fond d'une rivière. Par désespoir, elle a été sauvée par une tante venue de Niamey, mais qu'il a repéré lors de son passage dans le village. Elle l'a emmenée à la maternité centrale de Niamey afin qu'elle puisse être opérée. Et Madina a pu guérir après 11 interventions. La fistule est considérée au Niger comme une maladie de la honte.
Alors Madina, une femme reléguée, ostracisée. Charlie, quelles sont les causes de cette pathologie ?
Je suis allée poser la question au docteur Asmana Zala. Elle est gynécologue, obstétricienne de formation, chirurgienne de la fistule. Elle est en charge de la lutte contre la fistule obstétricale au sein du Fonds des Nations Unies pour la population.
Une fistule obstétricale, c'est une complication qui est liée à l'accouchement. C'est quoi exactement ? C'est une communication anormale entre l'appareil génital féminin et l'appareil urinaire, et ou entre l'appareil génital et l'appareil digestif. Les causes vraiment de la fistule obstétricale, c'est un accouchement non ou mal assisté. Elles n'ont pas pu avoir la césarienne à temps. Donc ça veut dire que la tête du bébé est là, qui est coincée, bloquée au niveau du pelvis. En fait, c'est la filière que le bébé traverse avant d'arriver au niveau du vagin pour sortir. Ça ne pouvait pas sortir parce qu'il y a l'obstacle. Peut-être l'enfant est gros, peut-être le pelvis est petit.
Du coup, ça veut dire que le bébé est dans l'utérus, essaye de sortir de l'utérus, n'arrive pas en fait à passer par la cavité par laquelle il doit passer, et du coup, ça pousse soit sur la vessie, soit sur le rectum.
Cette tête du bébé qui est là, qui est coincée entre la vessie et l'utérus, c'est qu'elle peut créer, c'est qu'il y a une ischémie d'abord qui se passe, ça veut dire qu'il y a pas, il y a un blocage et qu'il n'y a pas de passage de sang au niveau des cellules. Et cette ischémie, ça entraîne une nécrose, une destruction des cellules. Et une fois que le bébé est sorti, dans les jours qui suivent, il y a une chute de la nécrose et c'est ça qui crée le trou, c'est ça qui crée la communication anormale entre la vessie et le vagin ou bien entre le rectum et le vagin.
Et donc ces cellules mortes tombent ?
En fait, c'est la partie détruite de la vessie qui tombe.
Mais du coup, ça crée une lésion, un trou en fait, on peut dire, entre la vessie et le vagin.
Et le vagin.
Et ça peut être le cas pour la vessie, mais aussi pour le rectum.
Ça peut être le cas pour la vessie et pour le rectum. Et deux fois, malheureusement, on a des femmes qui ont les deux en même temps. Donc cette compression de la tête, c'est elle qui endommage en fait la vessie et le rectum. Et c'est ça, même c'est des femmes qui sont échappées, qui ont échappé vraiment à la mortalité maternelle. Jusqu'à présent, dans nos contextes ici en Afrique, la femme ne prend pas toujours la décision d'aller au niveau des formations sanitaires. C'est soit le mari, soit la belle-famille ou bien sa famille qui décide de quand il faut l'amener. Et deux fois, quand on décide d'aller, où aller? Parce qu'on n'a pas partout une couverture sanitaire. Si nous prenons le Niger, la couverture sanitaire est de 48%. Ça veut dire qu'il y a 52% de la population qui n'ont pas encore accès aux services de qualité.
Dans un rayon de 5 km.
Dans un rayon de 5 km. Et quand on cumule tout ça, là, c'est ça qui entraîne la fistule obstétricale, malheureusement.
Pour certaines, il aurait fallu idéalement pratiquer une césarienne, ce qui n'est pas possible dans les centres de santé.
Donc, d'où l'appel qu'il faut faire à la population pour que dès qu'il y ait les premières contractions, il faut être au niveau des formations sanitaires le plus tôt. Il ne faut pas attendre les complications. Il y a vraiment urgence parce qu'il y a la vie de la femme et de son enfant qui sont en danger. Mais pour pratiquer la césarienne, il nous faut un bloc opératoire. Un bloc opératoire, il faut l'équiper. Il faut l'équiper, il faut du personnel. On a une insuffisance surtout des chirurgiens. obstétricien, je fais.
Quelles sont les conséquences pour la santé de ces femmes dans le futur?
Il y a la déshydratation parce que c'est des femmes qui ont peur de boire, parce qu'elles vont se dire que plus elles boivent de l'eau, plus les urines vont couler. Elles ont peur de manger parce qu'elles vont se dire, effectivement, pour celles qui ont les fistules rectales, elles vont penser que les selles vont sortir. Et après, elles sont sujettes à des infections. Parce qu'il y a des femmes qui prennent des couches et c'est généralement des pagnes sales qui sont là, elles mettent, et donc ça ne peut que compliquer et la fistule qui est là.
On parle dans la société nigérienne de fistuleuse, mais vous n'aimez pas ce terme?
Ce terme, on trouve qu'il n'est pas approprié. Quand on dit fistuleuse, c'est comme si elles sont responsables. Alors que non, quand on regarde le trajet, tout le monde a sa part de responsabilité. Dans certains contrées, ils pensent que c'est des femmes qui ont été punies. D'autres pensent que c'est des sorcières. Mais c'est vraiment des innocentes. C'est vraiment des femmes qui sont victimes d'une injustice sociale.
Priorité santé sur RFI.
Et ces fistules dont on parle sont bien une pathologie qui aurait pu être évitée.
Oui, si les futures mères avaient pu avoir accès à des consultations prénatales, si elles avaient pu accoucher dans un hôpital où on pratique la césarienne quand elles en avaient besoin. Alors on associe souvent les fistules au mariage précoce, mais ils ne sont pas la cause de la fistule, plutôt un facteur favorisant. La véritable cause de la fistule, c'est vraiment un accouchement non assisté ou mal assisté. C'est vrai que le Niger est le pays avec le taux de mariage précoce le plus élevé au monde. Un quart des filles sont mariées avant l'âge de 15 ans et les trois quarts le sont avant l'âge de 18 ans. Avant l'âge de 18 ans, d'ailleurs, la moitié des Nigériennes ont déjà eu un enfant. Et avec un bassin immature, il existe plus de risques de ne pas pouvoir accoucher par voie basse dans un pays avec l'indice de fécondité le plus élevé au monde, en moyenne 7,6 enfants par femme. Et c'est important de souligner que dans 90% des cas de fistule obstétricale, le nouveau-né meurt pendant l'accouchement.
Alors, au Niger, plus de 700 nouveaux cas de fistule sont répertoriés chaque année.
Oui, et encore, seules les femmes qui arrivent jusqu'à des structures de santé sont comptabilisées. Il est difficile d'avancer des chiffres précis sur le nombre de femmes concernées au Niger. En tout cas, la première dame du Niger, Malika Issoufou, elle-même médecin, a souhaité lancer l'alerte sur ce fléau pour la sous-région. Elle a réuni d'autres premières dames de la CDAO ainsi que les ministres de la promotion des droits de la femme et de l'enfant de plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest. J'ai rencontré la ministre guinéenne de l'action sociale, de la promotion de la femme et de l'enfance, Adja Diaby Mariama Sylla.
Il a été identifié, selon les chiffres que nous avons reçus dans Gender Health, 4000 et quelques femmes victimes de fistules, selon cette ONG.
Mais il y a peut-être aussi d'autres cas qui n'ont pas été diagnostiqués dans toute la Guinée.
Mais bien sûr, parce que le phénomène est silencieux. Les communautés ne comprennent pas cette maladie. Donc on est passé par une stratégie de sensibilisation pour pouvoir identifier, informer d'abord les gens que ce n'est pas de la sorcellerie et tout. Nous avons notre dispositif institutionnel, le Centre de formation sociale appliquée Jean-Paul II, où ces fistules sont réparées. À Conakry, dans la commune de Ratoma. Alors, depuis 2010 jusqu'à nos jours, ce centre a identifié 971 cas de fistules et 500 et quelques ont été réparés complètement. Donc, nous sensibilisons ces femmes-là pour leur expliquer c'est quoi la fistule et comment ça arrive cette fistule.
En Guinée, un peu plus de la moitié des jeunes filles sont mariées avant l'âge de 18 ans.
Selon les chiffres, le rapport que nous avons élaboré en 2013, 3 sur 5 jeunes filles, sont mariées avant l'âge de 18 ans. C'est interdit. La législation guinéenne n'autorise pas le mariage avant l'âge de 18 ans pour la fille. Et les mutilations génitales féminines sont proscrites. Elles sont interdites en République de Guinée.
L'excision crée un terreau fertile pour les fistules obstétricales. Est-ce qu'on a une idée de l'ampleur du phénomène en Guinée?
Nous sommes dans les 97%. Sur 100 filles ou femmes guinéennes, vous rencontrez 97 qui sont victimes de mutilations génitales féminines. Le chiffre est effarant.
Et ça peut effectivement favoriser ensuite des fistules.
Mais bien sûr, ça amène les fistules. Parce que souvent, c'est pratiqué d'une manière barbare et on coupe tout. Mais nous voulons vraiment avoir des centres de référence spécifiques à la fistule. Elles-mêmes, elles ne comprennent pas ce qui leur arrive. Il faut sensibiliser, continuer à sensibiliser les communautés pour que s'il y a des cas comme ça que nous rencontrons, pour les amener vers les centres. Nous nous sommes retrouvés ici, c'est pour mutualiser les efforts qui sont menés un peu partout dans les États de la sous-région. Il faudrait que la volonté politique se manifeste autrement. Nous avons le budget, mais ce n'est pas toujours suffisant. Ça, il faut le dire, ce n'est pas toujours suffisant. C'est là où nous lançons l'appel et à nos dirigeants, mais aussi aux partenaires de développement. En tout cas, la Guinée, nous avons réellement besoin d'appui parce qu'il y a des victimes, il y a des fissuleuses en Guinée. Il faut allouer des ressources. C'est évitable. On peut éviter la fissure.
Et cette ministre guinéenne de la promotion de la femme et de l'enfance voudrait un centre national de référence pour la fistule financé par la CDAO en Guinée.
Comme c'est déjà le cas dans 6 autres pays de la sous-région où la CDAO subventionne grâce à des bailleurs des centres de référence où on traite cette fistule obstétricale, je vous propose d'écouter Marcel Alain de Souza, président de la commission de la CDAO. Il était à Niamey pour ce congrès autour de la lutte contre la fistule obstétricale.
C'est un phénomène qui a pris une grande ampleur. Nous avons fait un plan d'action. Alors, nous avons dénombré depuis 2011 près de 600 000 femmes atteintes de fistules obstétricales. Sur les 600 000 qu'on a dénombrées, nous, chaque année, au niveau de la CDAO, on essaye de prendre en charge pour les faire soigner dans les centres que nous subventionnons, 1500 par an. Alors que nous dénombrons chaque année au moins 100 000 de nouvelles fistules obstétricales, ça veut dire que c'est une goutte d'eau. Alors, donc, nous avons lancé un appel pour demander à tous les États de la CDAO de mettre 15% de leur budget au niveau de la santé. La fissure obstétricale peut trouver sa place là. Les chefs d'État ont pris l'engagement. L'appel d'Abuja depuis 2001, c'est de consacrer 15% du budget.
C'est effectivement l'engagement pris à Abuja.
L'engagement a été pris, mais aucun État n'a pu avoir les 15%. Jusqu'à présent, le maximum, celui qui a fait un peu plus d'efforts, est à 12%. C'est le Burkina Faso. Le reste, ils sont parfois à moins de 10%.
Dans quel pays est-ce que cette question de la fistule obstétricale est la plus prégnante, la plus importante?
C'est dans tous les pays de la CDAO, qu'il s'agisse du Bénin, qu'il s'agisse du Niger, qu'il s'agisse du Togo, qu'il s'agisse du Nigeria, qu'il s'agisse de la Guinée-Bissau, ainsi de suite, les 15 pays sauf. Au niveau du Cap Vert, et depuis 2000, ils nous ont signalé qu'il n'y a pas de cas. Bon, moi, j'aimerais bien vérifier. Et sinon, c'est un phénomène qui couvre tous les pays de la CDAO. Et donc, nous avons plein de cas de fistule obstétricale. Nous devons mobiliser la société civile, mobiliser les premières dames, mobiliser tout ce que nous pouvons pour que ce phénomène-là, on puisse l'éradiquer d'ici quelques années.
Éradiquer les fistules obstétricales, c'est l'objectif annoncé par les premières dames de la CDAO.
Les premières dames ont dit 2020, c'est un objectif. C'est idéaliste, c'est vrai, mais nous devons avoir des objectifs nobles. À défaut d'éradiquer, nous pouvons réduire de manière drastique ce phénomène. Il faut mettre l'accent sur des centres de référence.
Combien de centres pour réparer, pour opérer les femmes atteintes de fistules obstétricales ont été créés dans la CDAO?
Aujourd'hui, il a été créé 151 centres. Parce que généralement, il faut distinguer les centres qui sont de référence où on ne fait que la fistule obstétricale. Et maintenant, il y a d'autres centres où on peut réparer la fissure obstétricale, mais mal répartie, parce que la plupart des centres se trouvent dans les villes. Or, le phénomène de fissure obstétricale, c'est surtout dans les zones rurales. 151 centres, la plupart sont dans un état de délabrement avancé. Et le personnel n'est pas suffisamment formé, nous n'avons pas suffisamment de qualité pour prendre ces jeunes filles-là en charge. Mais il faut mettre l'accent sur la prévention.
Oui, pour éviter d'avoir à construire d'autres centres pour réparer.
Voilà.
En attendant que les mentalités changent, puisqu'elles ne changeront pas tout de suite.
Voilà, la mentalité, c'est une œuvre de longue haleine.
Priorité Santé, vous restez avec nous pour la suite de ce reportage au Niger consacré à la fistule obstétricale. Quelle prise en charge pour les femmes victimes de cette pathologie? Comment les opérer et comment les réinsérer dans la société alors qu'elles ont été reléguées pendant des mois, parfois des années, à la périphérie de leur village? On va se retrouver avec Charlie Dupiot pour écouter la suite de ce reportage au Niger. Ce sera juste après le point de l'actualité.
Priorité santé. Caroline Paré.
Et bienvenue si vous nous rejoignez. Priorité santé vous emmène aujourd'hui au Niger pour parler de la fistule obstétricale. Cette calamité qui entraîne l'incontinence urinaire ou rectale suite à un accouchement par voie basse pratiqué sans assistance. Chaque année, ce sont entre 50 000 et 100 000 nouveaux cas de femmes victimes de fistules qui sont recensées à travers le monde. Au Niger, ce phénomène est très répandu. Le pays est avant-dernier, 187e sur 188, au classement mondial de l'indice du développement humain, devant juste la Centrafrique. Alors, 44% des Nigériens vivent en dessous du seuil de pauvreté. Deuxième partie tout de suite du reportage réalisé par Charlie Dupieux à Niamey à l'occasion d'un congrès des premières dames de la CDAO organisé sur la fistule obstétricale. C'était au mois d'octobre. Une pathologie donc qui pourrait être évitée, qui peut être soignée. Et Charlie, vous avez rencontré un autre homme qui répare les femmes à l'image du docteur Mukwege de République démocratique du Congo, docteur que nous avons déjà eu la chance d'entendre dans notre émission.
Lui est nigérien, il s'appelle Lucien Djanikpo, il est gynécologue obstétricien et directeur du Centre National de Référence de la Fistule Obstétricale à Niamey. Il a été formé à la prise en charge de la fistule. Son centre a ouvert en 2013, un centre financé par des partenaires comme le Fonds des Nations Unies pour la Population, l'ONG Engender Health et l'État nigérien. La prise en charge des femmes y est gratuite et le centre accueille tous les cas complexes du pays et même ceux venus des pays frontaliers comme le Nigeria ou le Mali. 40% des patientes soignées sur place ont moins de 19 ans. Presque toutes viennent de milieux ruraux. Le docteur Djanikpo sort d'une longue convalescence. Il nous fait la visite.
Ce centre a une capacité, disons, de 36 lits. Nous sommes à peu près 23 agents qui travaillent dans ce centre, dont deux médecins, un gynécologue obstétricien et un urologue.
Vous êtes le gynécologue obstétricien?
Oui.
Donc vous opérez, en ce moment, c'est vous qui opérez puisque l'urologue est en mission?
Là, actuellement, je suis seul. Quand la femme vient, elle est admise là. Elles sont admises là.
Vous en avez un certain nombre ici de dossiers? On voit le dossier des guéris 2017-2016.
Oui.
2015.
Oui. Disons que nous avons opéré 368 femmes. Il y a certaines femmes qui guérissent après une seule intervention, d'autres ont besoin de plusieurs interventions. Donc à peu près deux interventions par femme. Mais la fistule se voit à tout âge chez les femmes en âge de procréer. On a certaines femmes qui ont plus de 35 ans et qui ont eu la fistule du fait donc du travail prolongé et bloqué. Peut-être qu'en ce moment, soit l'enfant était trop grand, soit qu'il se présentait mal. C'est pas seulement chez les adolescentes. La difficulté, ça peut arriver à tout moment. Même après 10 accouchements, la femme peut avoir des problèmes. Et là, c'est la salle de consultation. Donc, c'est ici que sont examinées les femmes. Est-ce qu'il faut opérer ou est-ce qu'il faut traiter par sonde?
Alors, comment on traite par sonde?
Le traitement par sonde, c'est lorsque la femme est vue tôt, juste au décours de l'accouchement, et qu'on constate que la fistule est petite, de moins de 2 cm. On place une sonde vésicale à demeure.
En fait, pour bien comprendre, on met la sonde pour laisser s'écouler l'urine et laisser la fistule se résorber d'elle-même.
Voilà. C'est-à-dire, il faut un écoulement continuel des urines par la sonde. Il ne faut pas fermer, bloquer, sinon l'urine remonte vers la fistule. Donc au bout de 3 semaines, on réévalue si la fistule est fermée. Et si elle n'est pas fermée, là en ce moment, on passe à l'étape supérieure qui est la chirurgie.
Là, on arrive dans une salle opératoire.
Nous arrivons au bloc opératoire. Nous avons deux blocs opératoires où nous opérons ces femmes. L'intervention de la fistule que nous pratiquons ici se fait le plus souvent par voie basse, par voie vaginale. Dans la majorité des cas, sous rachianesthésie, au niveau donc de la colonne vertébrale, nous avons des anesthésistes formés pour cela. En termes donc de l'intervention, c'est-à-dire on essaie d'abord d'évaluer la lésion, puis essayer de disséquer, de séparer la vessie du vagin ou le rectum du vagin et de le suturer séparément. Si la fistule n'est pas totalement fermée, par exemple, on part d'une fistule de 3 cm et on remarque après l'intervention qu'il reste à peu près 1 cm qui ne sont pas. Là, en ce moment, il y a une deuxième intervention à planifier 2 ou 3 mois après selon les cas. En moyenne, nous faisons jusqu'à 12 interventions par semaine.
Vous êtes combien de médecins au Niger
à savoir pratiquer cette opération?
Je pense qu'il y a une bonne dizaine. Ça reste peu. La majorité à Niamey, mais il y en a aussi à l'intérieur du pays.
On peut aller voir les femmes, peut-être, oui. Qui sont là? Là, on sort du bâtiment.
Et là, elles aiment la nuit, passer la nuit ici.
Ah, elles dorment dehors sous les arbres?
Elles préfèrent rester là que dans les salles, les choses. Elles ont des moustiquaires.
Donc ces femmes-là ont été opérées ou attendent d'être opérées?
Bon, il y en a qui, certaines sont opérées, d'autres c'est des accompagnantes.
Il n'y a pas beaucoup de maris par contre?
Les maris, ils sont beaucoup plus rares. Souvent, c'est les sœurs, les mamans et autres. Elle, je l'ai opérée une fois.
Bonjour. Ça va? Est-ce que je peux te demander de te présenter?
Je m'appelle Aminou Mourou. Je viens de Zouzouberi, près de Dosso, à l'est de Niamey. J'ai 22 ans. On m'a mariée à l'âge de 10 ans, mais mon mari est parti travailler au Ghana juste après notre mariage. Il est revenu 10 ans plus tard et je suis tombée enceinte. Après 3 mois de grossesse, j'ai suivi ma première consultation prénatale. J'en ai suivi 3 au total. Il y avait un centre de santé dans mon village. Mais après avoir accouché, j'ai commencé à avoir des difficultés.
Alors comment ça s'est passé, ton accouchement?
Le travail a commencé dans la nuit, à 2h du matin. Le personnel du centre de santé a mis du temps avant d'autoriser qu'on m'emmène à Birni, le chef-lieu du département, dans la région de Dosso. En chemin, j'ai perdu connaissance. J'ai pu accoucher là-bas à 2h du matin, un jour pile après le début de mon travail.
Dans quel état tu t'es réveillée? Comment tu te sentais?
Quand je me suis réveillée, c'était atroce. J'avais très peur. Quand je me suis levée pour aller aux toilettes, j'ai vu que de l'urine coulait entre mes jambes et que ça ne s'arrêtait pas. On m'a ensuite transférée de Birni jusqu'ici, à Niamey, en ambulance, et l'urine n'arrêtait pas de se verser, en continu. On m'a opérée et après l'intervention, cela s'est arrêté. Je suis alors rentrée à la maison, chez mes parents. Mais une semaine après mon retour, j'ai été étonnée de voir de l'urine à nouveau couler. Et j'ai commencé à ressentir une douleur dans le ventre. J'en ai parlé à ma mère et je suis revenue ici, dans ce centre. Là, j'attends une deuxième opération.
Docteur Lucien Njonikpo, on a entendu le témoignage d'une jeune femme qui dit qu'une semaine après être rentrée, après son opération, elle a commencé à avoir de nouveaux écoulements d'urine et ne comprend pas vraiment pourquoi. Alors, à quoi ça c'est dû? Comment ça s'explique, selon vous?
En réalité, quand une patiente sort, on l'examine d'abord pour voir si vraiment la fistule est fermée. Et dans ce cas, quand on l'autorise à sortir, c'est avec des consignes bien précises, notamment d'observer les 3 mois d'abstinence.
D'abstinence sexuelle, pas de relation sexuelle.
Voilà. Mais si elle dit qu'elle perd les urines, c'est probablement qu'elle est retournée chez son mari, elle a eu les rapports avant les 3 mois. Tout ce qui peut expliquer ça. Elle ne peut pas perdre les urines alors qu'elle n'en perdait plus ici. Ce n'est pas bien grave. On va essayer encore de la réexaminer.
On dit de vous que vous êtes l'homme qui répare les femmes, un peu à l'image du docteur Mukwege en RDC, pour les femmes victimes de viol. Vous, vous occupez de la fistule?
Bon, je suis d'abord gynécologue et je me dis quelque part que quand il y a fistule obstétricale, c'est un échec de l'accouchement. Ces femmes ont eu besoin de nous, mais on n'était pas là. C'est ça qui fait encore plus mal.
Un médecin engagé, hein, le docteur Lucien Njonikpo. Il a été l'un des premiers gynécologues d'Afrique de l'Ouest à intégrer la prise en charge de la fistule, autrefois gérée en urologie au sein de sa maternité. À l'époque, il dirigeait la maternité de Zinder.
Et aujourd'hui, dans son centre de référence sur la fistule obstétricale à Niamey, il revendique 90% de taux de réussite, 75% dès la première intervention et le reste dès la deuxième ou la troisième opération. Malheureusement, il reste des femmes incurables, des cas complexes, notamment quand les femmes arrivent avec un urètre détruit, difficile à opérer. Ces femmes auront toujours une incontinence urinaire, même si elle est réduite.
Alors ces femmes, on l'a entendu, ont été tenues à l'écart de la société sans pouvoir longtemps travailler. Comment les réinsérer?
Eh bien, plusieurs ONG au Niger accompagnent les femmes opérées dans leur nouvelle vie et les forment à des activités génératrices de revenus. C'est le cas de l'ONG Dimol. Dimol, cela veut dire dignité en peul. Cette ONG a son siège dans la même rue que le Centre National de Référence de la Fistule où on opère les femmes. D'ailleurs, le siège est même à quelques dizaines de mètres du centre. Les femmes y séjournent avant et après leur intervention chirurgicale. Fantaba nous accueille. Elle est responsable du centre d'hébergement de l'ONG.
Là, ce sont des activités génératrices de revenus qu'elles sont en train de faire. Donc, quand la femme vient pendant son séjour, elle a des activités qu'elle apprend, notamment, comme vous avez vu, la vannerie, la fabrication de bijoux en perles. Et tout ça, c'est pour préparer leur réintégration sociale. Après guérison, donc ça leur permet d'être autonomes au village.
Là, on a 5 femmes qui sont assises par terre sur des tapis. 2 qui font là des colliers en perles. Là, on voit par exemple une femme qui fait un joli bracelet avec des perles orange et noire.
Il y a aussi les femmes qui sont assises là-bas sous le hangar. Elles viennent d'arriver et elles ne veulent pas se mettre dans le grand groupe parce qu'elles pensent à déranger les autres femmes avec l'odeur des urines.
Ah, parce qu'elles n'ont pas encore été opérées?
Non, pas encore. Et souvent, même quand elles sont opérées, elles ne sont pas totalement sèches. Hein.
Et d'où viennent ces femmes, alors, qui sont ici aujourd'hui?
Elles viennent de partout du Niger, et même des pays voisins, du Nigeria. On a une qui est venue du Nigeria. On a pratiquement toutes les régions du Niger, même de la région d'Agadez, de Diffa.
À l'est du pays?
Oui.
Et alors, donc ici, là, on est sous un auvent, en fait. Les femmes sont à l'ombre, assises sur des tapis, en train de travailler, de manger pour certaines. Et là, en fait, on a un bâtiment. On peut aller voir?
Oui, on peut rentrer. Bon, là, c'est notre grande salle que nous avons. Vous avez 7 lits. Là, de ce côté, vous avez les machines à coudre. Donc là, vous voyez des matelas dans le couloir. Quand on a beaucoup de femmes, donc souvent les matelas sont mis entre les allées, puisque les lits ne suffisent pas.
Et là, on voit que dans les chambres, il y a des ventilateurs, c'est le bruit qu'on entend.
Parce qu'il fait chaud, elles sont un peu serrées. Et souvent, quand elles viennent, elles ne veulent même pas qu'on les touche, qu'elles soient touchées hein, ou examinées par la sage-femme. Donc là, on fait appel au psychologue.
Et ensuite, vous les orientez en fait vers le centre de la fistule obstétricale qui est en face, quasiment, dans la rue.
Oui. Il y a une longue liste d'attente. Il faut attendre 2 semaines ou 1 mois. Mais quand elle a un état altéré, il faut la suivre, traiter les petites pathologies avant de la référer.
Quelles pathologies, par exemple?
Souvent, c'est des infections. Souvent, la femme, quand elle arrive, elle est anémie, elle est déjà faible. Quand elles arrivent, le conseil, c'est de leur dire buvez beaucoup d'eau. Buvez beaucoup d'eau, elles prennent beaucoup d'eau. Je ne sais pas si vous en avez vu dehors. Il y en a qui ont des bidons d'eau à côté d'elles ou des seaux d'eau. Donc elles passent tout leur temps à boire. Nous avons 2 formateurs en couture. Il y a aussi l'alphabétisation que nous faisons.
Parce que la plupart ne savent pas lire ni écrire.
Non, elles ne savent même pas compter. Elles n'ont jamais été à l'école.
Ici, tout est gratuit pour elles?
Tout est gratuit, la nourriture aussi.
Il y en a une qui se peigne là, on voit.
Il se défait les tresses.
Bonjour, alors toi aussi tu es accueillie par cette ONG et je crois que tu as déjà été opérée puisque tu es avec les femmes qui sont en train de travailler, de fabriquer des colliers de perles et des paniers. Est-ce que je peux te demander de te présenter?
Je m'appelle Mariama.
Quel âge tu as?
23 ans. Je suis ici parce que pour donner naissance à mon deuxième enfant, j'ai accouché à domicile. J'ai alors eu une grande déchirure et très vite, je n'ai plus réussi à retenir les urines et les flatulences.
Et le bébé ?
Il est vivant et bien portant. C'est une fille. Elle a eu 4 ans cette année. Après l'accouchement, je suis restée 2 ans à la maison, seule. Je ne sortais pas pour éviter d'embêter les autres. Je pilais le mil, j'allais chercher l'eau, mais c'est tout. Le reste du temps, je me mettais à l'écart et je pleurais, toute seule. J'avais très honte parce que j'étais la seule fille de mon village dans ce cas. Au village, ils ne savaient pas que c'était une maladie. Ils pensaient que je faisais exprès. Je pensais qu'il n'existait aucun traitement pour ce que je subissais. C'est pour cette raison que pendant 2 ans, je n'ai même pas cherché à guérir. Et puis un jour, je suis allée au centre de santé dans mon village. J'ai discuté avec l'agent de santé et il m'a dit que ce dont je souffrais pouvait être traité.
Depuis combien de temps est-ce que tu as été opérée ?
J'ai été opérée 2 fois. La dernière intervention a eu lieu il y a plus de 3 mois et aujourd'hui ça va. Maintenant, je suis guérie, c'est fini. J'attends simplement une dernière visite de contrôle au sein du centre national de référence, juste à côté d'ici.
Et du coup, là, en fait, tu attends d'être totalement guérie, d'être sûre que c'est bon avant de retrouver tes enfants ?
Oui, mon mari est décédé, on ne sait pas de quoi. J'ai 2 enfants, une fille et un garçon qui a 6 ans. Le garçon vit chez mes parents et la fille est accueillie chez les parents de mon défunt mari, dans un autre village.
Comment tu vois l'avenir aujourd'hui ?
J'ai acheté 3 moutons avec les fonds qu'on m'a donnés ici. Et puis, j'espère trouver un nouveau mari.
Priorité santé sur RFI.
Et l'ONG Dimol donne de l'argent aux femmes qu'elle accompagne pour les aider à démarrer une nouvelle vie après leur opération.
Oui, entre 115 et 230 euros sont alloués à chaque femme. La plupart choisissent avec cet argent d'acheter du bétail, des chèvres ou des moutons comme Mariama que l'on vient d'entendre. Certaines partent avec une machine à coudre pour devenir couturière dans leur village. Et pour mieux faciliter ce retour dans leur village d'origine où elles ont été stigmatisées, l'ONG Dimol propose de les accompagner en voiture et même de célébrer une cérémonie de réintégration. C'est le cas ce lundi matin. À 7h30, le coq dans la cour de l'ONG chante encore et le soleil est déjà bien levé. Certaines femmes se maquillent, se coiffent, d'autres commencent déjà à assembler des perles. Salamatou Traoré, la fondatrice de l'ONG Dimol, sage-femme de formation, arrive avec son 4x4 qui ne démarrait pas la veille pour emmener des femmes dans leur village d'origine. Un voyage qui durera plusieurs jours.
Alors, nous allons accompagner 2 femmes qui sont non loin de Dosso.
Donc c'est à l'est de Niamey.
Oui, voilà. Dans chaque village, nous aurons à rencontrer le chef coutumier, le chef de CSI, c'est-à-dire le responsable de la santé. Nous allons rencontrer aussi, en cas où dans le village il y a des enseignants, nous allons travailler avec les enseignants. Et ensuite, l'agent de santé va nous accompagner dans la famille de la jeune à réintégrer. Et là, nous allons faire une série de sensibilisations. Et la sensibilisation concerne toute la communauté, avec le mari, s'il existe encore, ou sa belle famille, en cas où il y a des problèmes de santé qu'ils évacuent très tôt, rapidement, en cas où il y a des mariages précoces qu'ils n'acceptent pas.
Et l'idée, en fait, c'est que cette sensibilisation, elle aura lieu sur la place du village, devant tout le monde, si possible.
Oui, oui. Et aussitôt, dans la salle, il y en a qui disent « Ah, on a une femme qui est là, vous pouvez l'amener ?» On dit « Oui, on peut l'amener. »
Ça arrive que vous rameniez des femmes ici, à Niamey ?
2-3 femmes, oui. Maintenant, on va, mais il se pourrait qu'on ait des femmes, des cas. C'est en brousse, il y a pas, ce sont des pistes. Parfois, il y a des cours d'eau et on est obligé de faire des détours, des grands tours pour pouvoir accéder au village.
Pourquoi c'est important que vous veniez pour les réintroduire, pour les réintégrer ?
Alors, il faut quand même les mettre en confiance et aussi le fait qu'il y ait un véhicule. Le véhicule, quand il vient dans le village, c'est un honneur pour la famille qui reçoit et la sensibilisation et surtout son témoignage pour dire que je suis celle qui a été formée. Elle va voir dans les maisons tout ce qui se passe, si les enfants sont propres, s'il n'y a pas de femme enceinte qui ne va pas en consultation. Et surtout, s'il y a des échos qu'il y a d'autres cas de fistules à telle ville, dans tel village ou à tel lieu. Pour la population, à partir du moment où ils voient qu'elle se lève, elle se promène, elle est sèche, donc c'est fini. La vision de la population, c'est qu'on peut guérir. Elles changent parce qu'elles deviennent toutes belles, elles deviennent propres. Avec le savon qu'on leur donne toutes les semaines, elles ont deux morceaux de savon.
Et alors là, vous partez avec une femme, tu t'appelles Mariama, c'est ça? Quel âge tu as?
Diru.
J'ai 18 ans.
Tu viens de te faire belle, de te préparer, tu portes une jolie robe avec des motifs bleus sur un fond rouge et beige. Tu t'es mis un collier, tu portes des bracelets tels que ceux que vous vendez ici, que vous fabriquez. Qu'est-ce que ça te fait de rentrer dans ton village?
Je me suis maquillée parce que je rentre chez moi. Donc je rentre chez moi toute belle. Je suis très contente aujourd'hui de rentrer chez moi. Parce que je suis guérie, je rentre fière chez moi.
Depuis combien de temps tu n'es pas allée dans ton village?
Ça me fait 4 semaines que je suis là.
Et là-bas, quand tu es partie de ton village, comment les gens te regardaient avec ta maladie, avec ta fistule?
En ce moment que j'étais malade, je me sentais comme une vaurien. Je ne valais plus rien. Les gens me regardaient comme une saleté parce que je sentais les urines à tout moment.
Tu n'as pas peur des réactions des gens, qu'ils continuent de mal te regarder, de te rejeter?
Oui, ce que tu as dit, c'est vrai. Il y en a qui, jusqu'à preuve du contraire, vont me regarder d'un œil que je suis resté sale. Mais il y en a qui vont comprendre que je suis guéri et je suis une nouvelle personne aujourd'hui, qui vont m'approcher.
Comment tu vois ton avenir? Qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas travailler? Est-ce que tu vas te remarier?
Depuis que j'ai eu la fistule, mon mari m'a toujours soutenu de toutes ses forces, jusqu'à l'opération, jusqu'à ma guérison. Il est même venu ici, à Niamey, au centre de l'ONG Dimon. Il m'a toujours accompagné. Ce n'est que pendant l'hivernage qu'il est retourné au village pour la culture. Si je retourne à la maison, je vais retourner avec mon ancien mari parce que je ne suis pas divorcée. Et concernant le travail, j'ai appris beaucoup de choses ici, comme la couture, le perlage, la broderie sur les draps. Donc je vais aller faire ça à la maison.
Bah bon voyage alors, bon retour. Vous êtes Salamatou Traoré, vous êtes sage-femme de formation, vous avez fondé cette ONG Dimol en 98, il y a déjà près de 20 ans. Et en fait, vous avez eu des cas de fistules dès vos premières années en fait en tant que sage-femme dans les années 70.
C'est un grand plaisir pour moi, un ouf, parce que quand je vois avant le temps qu'elle mettait dans les hôpitaux pour guérir et le temps réduit aujourd'hui après la guérison pour repartir chez elle. Actuellement, il y a des femmes encore en brousse qui n'ont pas l'information qu'elles ont la chance de guérir. Et c'est le bouche à oreille qui fait que souvent on a des cas qui ont fait plus de 10 ans, plus de 15 ans, qui viennent au centre. La femme la plus âgée, c'est une femme de 53 ans. C'est une maladie que les gens ne veulent pas qu'on en parle. Les populations, quand ça touche à l'intimité, là, c'est tabou. Mais nous, on a fait que ce problème ne soit plus tabou au Niger.
Bah bonne route alors, à tout le monde.
Merci.
Bonne route.
Ok, merci.
Avec peut-être un sentiment de revanche hein, pour ces femmes qui reviennent dans leur village d'où elles avaient été répudiées.
Une revanche sur leur entourage, leur village et surtout sur leur vie. Nous avons entendu au tout début de ce reportage Madina, victime de la fistule qui a pu être sauvée après 11 interventions. Et bien après avoir été répudiée par son premier mari, quand sa fistule rectale s'était déclarée, Madina a pu trouver un nouveau mari. Elle travaille aujourd'hui comme infirmière à la maternité centrale de Niamey. Après plusieurs fausses couches et alors qu'elle n'y croyait plus, elle a eu une petite fille de 4 ans en accouchant par césarienne. Aujourd'hui, elle rêve de donner naissance à un autre enfant, un garçon si possible, et elle veut porter haut et fort ce message à toutes les femmes qui, comme elle, n'y croyaient plus. La fistule obstétricale peut être réparée, d'où la nécessité d'en parler et de briser le silence sur ce sujet.
La fistule obstétricale au Niger, un reportage de Charlie Dupiau réalisé par Didier Bleu. Et d'ailleurs, c'est une pathologie dont on parle sur notre antenne. L'un des deux lauréats de la bourse, Ghislaine Dupont et Claude Verlon, cette année, le journaliste Arona Diouf a traité de la souffrance des victimes de la fistule obstétricale dans son pays, le Sénégal. Et vous pouvez retrouver le lien de ce reportage sur notre site internet www.rfi.fr, également sur la page de notre émission. Demain, dans Priorité Santé, à l'occasion du sommet de Paris dédié à la lutte contre le réchauffement climatique, nous parlerons de l'impact de ce réchauffement en termes de santé mentale.
C'était Priorité Santé avec Suno Assurance. Notre métier, l'assurance. Africa.